Alors, nous sommes toujours au Quorum avec Andrea Fallico. Vous allez toujours bien, Andrea Fallico, ça va?
Très bien, merci.
Bien. Alors, donc vous allez jouer très bientôt le concerto de Copland, un concert dirigé par Roderick Cox avec, si j'ai bonne mémoire, la quatrième de Bruckner et puis une œuvre d'une compositrice qu'on connaît peu. Perry, j'ai oublié le prénom, mais bon, c'est pas grave, on va parler surtout d'Aaron Copland. Alors, Concerto, c'est une des œuvres, Copland dit qu'il n'avait pas du tout imaginé composer ça si Benny Goodman, célèbre clarinettiste de jazz, ne lui avait pas passé la commande.
Oui.
Alors, une œuvre qui est depuis une des plus jouées de Copland. Hein, voilà. Alors, comment, en tant que clarinettiste, vous abordez cette œuvre? Parce que Copland dit quand même, c'est bien que le clarinettiste ait une connaissance du jazz.
Oui. Mais écoutez, c'est une œuvre que je chéris beaucoup. Elle est aussi spécifique. Parce que ce n'est pas le concerto classique en trois mouvements que nous avons l'habitude d'entendre. C'est une seule volée du début à la fin, sans interruption, avec un premier mouvement très rêveur, sur une passacaglia et un 3-4. C'est déjà là, ce n'est pas. Pas le Copland habituel que nous avons l'habitude d'entendre. Et pour cette première partie, déjà le souhait de Copland même, c'était de faire pleurer les gens. Parce qu'il y a cette mélodie qui est vraiment pensive, lente. C'est quelque chose de très calme.
Ouais. Bah, le mouvement
Et
est indiqué slow, je crois, tout
oui,
simplement.
avec deux pizzes de harpe très douces qui introduisent la mélodie à la clarinette. Et puis il y a ce pont qui est constitué par la cadence, une grosse cadence pour clarinette, je crois la plus longue dans le répertoire de notre instrument. Et c'est justement ici qu'on commence à entendre le côté jazzy de ce concerto. Et c'est sûr que le jazzy, Goodman, cette idée aussi de Goodman, de jazzman, c'est sûr que tout ça a inspiré Copland. Mais à mon avis, ce qu'il ne faut pas penser, c'est que Copland même soit un jazzman. Lui, comme Stravinsky, par exemple, s'inspire du jazz. Mais avec une formation classique, il essaie de mettre en musique ce qu'il entend. Et donc, le rythme jazz, il est là parce que Copland, il choisit lui-même où placer les accents, par exemple. Ce n'est pas au libre choix de l'interprète de swinguer à sa guise, mais tout est pensé, bien sûr, encore une fois, avec une perspective jazzy, mais la formation classique est là. Quand même, rappelons-nous que Copland s'est formé auprès de Boulanger à Paris pour la composition, et après, il est parti aux USA.
Oui, il faisait, c'est vrai, c'est important que vous le rappeliez, il était dans
Ouais.
la première promotion
Ouais.
du conservatoire
Ouais.
américain
Ouais.
près de Paris.
Voilà. Donc il y a ce pont aussi avec la France, Nadia Boulanger, qui a formé aussi, entre autres, Piazzolla. Et on voit que chacun, après, se manifeste sous une forme différente parce que Boulanger voulait que chacun puisse donner voix à sa propre âme. Et donc Copland, il est pleinement là-dedans. Donc, il y a ce caractère de la musique américaine quand même qui, à un moment donné, après la fin de la cadence, commence à se manifester avec des rythmes qui se mélangent entre eux. Nous avons des battues à 3-4, mais à l'intérieur, le rythme est à 5-8. Donc, au bout d'un moment, ça devient un peu hypnotique et on perd le sens du rythme. Et il est capable aussi d'explorer toutes les nuances. On part du pianissimo du début et on arrive à sforzando, fortissimo, avec des accents vraiment très profonds. Et il y a aussi un peu un côté presque tribal dans cette musique, à un moment donné.
Oui, mais je crois qu'il s'est inspiré aussi des musiques populaires américaines, mais aussi sud-américaines.
Oui.
Parce qu'il s'intéressait beaucoup à ce qui se passait en Amérique du Sud.
Oui, oui, c'était l'époque de l'exotisme. Même Darius Milhaud, il a voyagé beaucoup en Amérique du Sud. Et il a fait un voyage à Rio de Janeiro au moment où il a écrit le concerto de Copland. À un moment donné, il l'a mis de côté parce qu'il n'avait plus d'idées. Et seulement quand il est rentré, il a terminé le concerto. Il a soumis le manuscrit à Copland en 1988. Et Copland a suggéré quelques modifications, surtout dans le registre des suites aiguës.
Et, Benny Goodman a suggéré ces modifications, disait Copland.
Benny Goodman. Benny Goodman, oui. Et aussi la coda finale, il y a eu des modifications que sur la partition qui a été publiée, la partie originairement dédiée à la clarinette a été transférée à la main droite du piano et la clarinette fait plutôt des ponctuations. Mmh. Et voilà. Et donc la figure de Benny Goodman est aussi très importante parce que tout le monde connaît Goodman pour le jazz et c'est vrai qu'il a fait beaucoup, mais au fond de lui-même, il y avait cette envie d'être reconnu aussi comme un clarinettiste classique. À un moment donné, il a pris des cours de clarinette pour améliorer sa technique et en même temps, il trouvait que le répertoire de la clarinette commençait un peu à se vider, ou plutôt à ne pas être fourni assez. Et donc, il faut dire qu'il a commandé non seulement le concerto de Copland, il a commandé un concerto à Milhaud, à Hindemith, et la toute première œuvre qui a été dédiée et commandée par Benny Goodman, ce sont le contraste de Bartók, ce trio mythique pour clarinette, violon et piano. Donc, voilà, tout le monde le connaît pour le jazz, mais en fait, il a été à la base de la composition de la plupart des concertos pour clarinette au XXe siècle. Il a enregistré avec Stravinsky et Boni Concerto. C'est encore une fois un concerto qui s'inspire un peu du concerto grosso de l'époque baroque, en ce qui concerne la formation orchestrale. Mais après, l'inspiration musicale est encore une fois jazz. Et Goodman a voulu l'enregistrer sous la direction de Stravinsky même. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était vraiment très dévoué vis-à-vis de la clarinette et qui a fait beaucoup de choses pour cet instrument. Et dans les enregistrements qui existent, il y a un enregistrement en 1950 avec l'orchestre NBC. En 1960, il enregistre sous la direction de Copland même avec Los Angeles Philharmonic. Et si on écoute ces enregistrements, peut-être on pourrait avoir des préjugés en disant ça va être du jazz à fond. Et en fait, non. Il est très respectueux de la partition. Et ça ne part pas dans tous les sens avec des glissandi, la façon de swinguer, là où il ne le faut pas. Parce que dans la partition même, il y a des moments où ça swing, mais c'est Copland même qui écrit le rythme, le fameux rythme swing de cloche pointée double, ta 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 ta. Donc, c'est Copland qui l'écrit et Goodman, il essaie surtout pas de swinguer là où c'est pas écrit parce que sinon, ça enlèverait la surprise pour les endroits où c'est déjà prévu. C'est quelque chose de passionnant, je trouve, cette collaboration entre compositeur et interprète. Et encore une fois, ça a été le point en commun pour tous les grands compositeurs. Mozart, il avait Stadler, Weber avait Berman comme clarinettiste, Brahms avait aussi un interprète qu'il aimait beaucoup. Donc voilà, c'est toujours une approche, parce que la plupart des compositeurs sont de formation pianistique, violon. Donc pour se rapprocher un peu de cet instrument, il faut aussi quelqu'un qui le joue et qui aussi passe un peu les secrets du métier pour aider dans l'écriture de la partition.
Oui, puis vous évoquez à un moment donné les retours que Goodman a fait sur la partition. Et notamment, il y avait je relisais l'autobiographie de Copland, qui dit, il y avait une note aiguë. Je l'ai entendu la jouer, donc il peut la jouer. Puis Goodman a dit, oui, quand je fais du jazz, peut-être, mais là, non,
Tout à fait, tout
là, je
à
ne vais pas me
fait.
risquer.
Il y avait un do sur l'aigu qui a deux reprises et Goodman a choisi de. Ça reste toujours très aigu, mais c'est juste
Un petit peu moins.
un peu moins, à une deuxième, à une tierce d'intervalle. Voilà.
Merci beaucoup, Andrea Falico. On aurait envie de continuer à parler de musique ensemble, mais bon, on a un temps qui nous est imparti, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour tous ces éclairages sur le concerto de Copland. Et puis, je vous souhaite le meilleur concert possible.
Merci, merci. À très bientôt.